Conflit de canard, l'émission qui éclabousse l'actualité.
Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est le conflit de canard qui démarre sur Radio Larzac. Alors on n'est pas au marché comme on aurait dû ce matin, puisque c'est le dernier vendredi du mois. La pluie, le vent nous ont découragés, et puis surtout le fait qu'on n'avait pas de solution pour remonter notre caravane. Donc il ne suffit pas de la descendre, il faut encore la remonter, et ce n'est pas toujours facile. Voilà, c'est un petit message en forme d'appel que je lance comme ça sur les ondes. Pas d'édito non plus, l'éditorialiste
feignant.
A été peu feignant, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est incroyable.
Donc je vais vous faire un genre de petit sommaire, si vous voulez bien.
Ah. Ça devient nouveau, ça.
Ça devient sérieux, là.
Non, mais bon. Voilà. Dire aux auditeurs ce à quoi ils peuvent se préparer.
En meuble comme on peut.
Donc, il sera question du Penelope Gate, il sera question de Donald Trump, il sera question de la Légion, une fois de plus, il sera question de la manif à Rodez la semaine dernière. Il y aura aussi un petit détour du côté de M. Claude Guéant et de ses affaires judiciaires. Il y aura une chronique science-fictionnesque. Et un petit peu de techno aussi, il y aura des Kiadi et puis une nécro. Voilà, c'est le conflit de canard qui démarre. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Et c'est parti. Alors, qui veut commencer?
Moi, je veux bien commencer parce que j'avais laissé quelque chose en suspens la dernière fois. C'était justement au sujet de la Légion étrangère. Alors je suis désolé, je peux donner l'impression d'insister lourdement, mais c'est pas moi qui ai commencé. Hein. puisque donc là, il y a 15 jours, donc venait de sortir, et j'en avais pris connaissance le matin même de l'émission, donc un très grand reportage étalé sur 3 éditions.
Tu appelles ça un reportage, toi?
Ben, je suis pas encore assez méchant là, ça va peut-être venir. Donc qui ont été publiés dans le Midi Libre, et donc c'était sur 3 éditions, au total il y avait 4 pages, et donc l'interrogation dont j'avais fait part il y a 15 jours, c'était la question c'était, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil Cosnard, je veux dire, les légionnaires sont là, il n'y a pas d'actualité spécifique, donc pourquoi remettre une couche? Alors je me suis bien évidemment plongé dans la lecture de ce passionnant reportage entre guillemets. Et en fait, bah, la confirmation, c'est bien ça, c'est-à-dire rien de nouveau sur le soleil, c'est-à-dire que le Midi Libre donc, a continué d'étaler les mêmes arguments, ressassés, etc., sans jamais répondre aux questions que les opposants se posent. Par exemple, dans la première édition, il était question de l'intervention des élus qui avait permis donc à ce que les Sud-Aveyronnais puissent enfin voir la lumière. Donc je répète, hein, l'intervention des élus pour accompagner l'installation de la Légion par la création d'équipements civils. Mais la réponse à la question, on ne l'a toujours pas eue. La question étant, pourquoi ces élus n'ont rien fait avant. Voilà. Ensuite, dans l'édition du lendemain, donc, il était question du boom démographique. C'est-à-dire que les légionnaires allaient apporter un renouvellement de population, mais toujours pas de réponse à la question, pourquoi parle-t-on toujours des nouveaux arrivants, mais jamais des partants? Parce que voilà, les légionnaires ont quand même remplacé les militaires qui étaient déjà là avec leur famille. Et enfin, dans la troisième partie, donc c'était l'argument économique, hein, un boom économique, mais toujours pas de réponse à la question, en quoi quelques chantiers temporaires sur le camp peuvent apporter un développement économique pérenne sur le Sud-Aveyron. Voilà. Alors, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que le titre global, c'est « Une aubaine pour le Sud-Aveyron », donc l'arrivée de la Légion sur le Larzac, mais quand on regarde bien les 3 articles, il n'est question que d'éventuelles retombées sur le seul village de garnison de la cavalerie. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, et en effet, cette aubaine ne semble pas avoir atteint Millau, puisque je rappelle que 50 postes sont menacés de suppression à l'hôpital. J'espère que les légionnaires ont leur petit hôpital de campagne bien équipé, parce que sinon, voilà. Alors, Pourquoi tant insister pour moi, la réponse à la question que je me posais, elle est évidente, c'est que l'année 2016 s'était un petit peu mal terminée pour les zélateurs de la Légion. Je rappelle que l'annulation du défilé du 11 novembre avait laissé un petit arrière-goût de débandade, puisque il est quand même établi que, contrairement aux affirmations hystériques du maire de Millau, le défilé n'a pas été annulé à cause d'une action quelconque des opposants, mais par une décision politique qui avait été prise la veille. Quoi. Alors, je dois quand même préciser que c'est le Midi Libre qui a publié donc ces pages, mais j'ai contacté le rédacteur en chef du Midi Millau et
ça ne vient pas de Millau.
Voilà.
On l'avait déjà signalé la dernière fois.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Centre Presse donc qui a publié ça et c'est remonté dans les colonnes du Midi Libre et le Midi Libre de Millau n'a pas... Donc voilà, la conclusion c'est... le Midi Libre, Centre Presse font partie du même groupe de presse. Quel est ce groupe de presse? La Dépêche. Qui dirige La Dépêche? La famille Bellet, en la personne de madame et de son fils, en remplacement de monsieur. Et qui est monsieur? Monsieur, c'est Jean-Michel de son prénom, qui est l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.
Ancien candidat à la primaire socialiste en 2011.
Voilà, et de par sa fonction, on peut très bien dire que main dans la main avec son comparse de la Défense, ce personnage est un des principaux superviseurs de l'installation de la Légion sur le Larzac. Donc on peut très bien imaginer qu'il est... Moi, j'imagine un petit dialogue aussi entre lui et Le Drian. Le Drian disant, par exemple, dis donc, Jean-Mi, ton canard, là, il couvre bien le sud de la France, où se trouvent Millau et le Larzac. Alors, tu vas nous en mettre une petite couche, parce qu'apparemment, là-bas, tout le monde ne paraît pas convaincu. Quoi. Voilà. Alors, je suis désolé d'avoir remis ça sur le tapis, mais comme je l'ai dit, c'est pas moi qui ai commencé. Et s'il continue, on continuera de la même façon. Quoi.
Tu parlais des arrivées et départs. Est-ce que c'est opération blanche réellement entre arrivée et départ ou est-ce que
en termes d'effectifs, on ne sait pas du tout. Je me suis rattrapé avant. On ne sait pas du tout.
Oui, il faut préciser à nos auditeurs que c'est en cas de manque de négation qu'on entend la petite bobine.
Ah, j'ai été sympa, j'aurais pu le faire sonner 10 fois depuis que tu as commencé.
Attends, tu vas me le passer.
Oui, je te le passe, sans problème.
En termes de compte, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais quand dans ce reportage sur la Légion, sur le Larzac, dont bien évidemment il y a l'inévitable entretien avec l'actuel maire de la cavalerie, donc qui affirme que aujourd'hui la population de la cavalerie a doublé. Donc les chiffres qu'il donne, c'est que avant la population de la cavalerie c'était 1000 habitants et on en est à 2000. Le problème, c'est que un tout petit peu plus loin, il dit qu'il y a sur le camp 780 nouveaux militaires avec leurs familles. Donc déjà, ça double pas. 780, c'est pas 1000 de plus. Et en plus, bien évidemment, là, on ne décompte pas les partants. Mais les partants, on ne sait pas combien il y en a. Donc voilà, affaire à suivre. Parce que j'ai l'impression qu'en face, ils veulent toujours me remettre le couvert. Donc moi, ça me donne faim, donc il n'y a pas de souci.
Je trampoline, puisqu'on parle Légion. Petite info que j'ai vue dans le Canard enchaîné, et je rappelle donc aux éditeurs, quand Monsieur Le Drian est venu sur le Larzac, notre ami Fauconnier lui avait offert un sac du Larzac en le glissant glissant tendrement à l'oreille, comme ça tu pourras mettre plein de contrats de rafales dedans.
Ah ben banco.
Banco, oui, puisque dans le canard enchaîné de cette semaine révèle que donc la France a battu un record, puisqu'en 2016, on a signé pour 20 milliards d'euros de contrats d'exportation, donc en battant le précédent record de 2015 qui était de 17 milliards. Donc ça fait plus de 20% quand même, si je compte bien. Et donc 36 rafales à l'Inde
et
des sous-marins à l'Australie. Voilà. Donc merci Alain.
Mais serait-il visionnaire ?
Peut-être.
Waouh !
Donc si vous voulez faire des affaires, investissez dans le sac du berger.
Ensuite,
j'ai un petit kiadi là pour briser l'atmosphère.
Détendre l'atmosphère.
Il est un petit peu long, mais
il va être dur alors.
Il est succulent, je trouve. Nous entendons faire passer un souffle sur le pays, faire craquer toutes sortes de choses qui doivent disparaître et faire naître un élan nouveau. Je veux enfin que ma candidature soit la percée qui permettra à un courant nouveau de se manifester pour donner à la France, au-delà des partis politiques qui sont selon moi dépassés, une formation originale et neuve. La seule solution, c'est de partir, c'est de quitter les partis, de sortir des classifications, de poser des objectifs, modernisation, Europe, formation politique nouvelle, et de laisser venir dans cette direction tous les Français, d'où qu'ils viennent, qui se sentent appelés par cette possibilité.
Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a un piège.
Ah, tu penses bien.
José Bové.
Non. À qui pensais-tu ?
Comme ça, d'emblée, on pense à Macron.
Bien sûr.
Mais c'est forcément dans la bouche de quelqu'un d'autre.
Eh oui, c'est forcément dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et vous savez dans la bouche de qui c'est ?
Mais non.
Jean Le Canuet, 1965.
Ah oui, d'accord.
Bon, attends, j'étais pas né.
Visionnaire, ce Macron. Hein.
Il y en a quelques-uns, oui.
Voilà. Quelques-uns. Ça remet les pendules à l'heure, je trouve.
Bah, Le Canuet, c'était le centre, hein, de toute façon. Hein,
mais c'est un copier-coller de son discours. Ouais. Et donc, on est quoi ? On est en 2016, 50 ans plus tard. Voilà.
Comme quoi, les choses avancent.
Eh oui.
Moi, ça me fait penser à vos primaires de la...
Non, c'était pas la... De la Belle Alliance Populaire.
La Belle Alliance Populaire.
J'ai du mal à le dire, là.
La BAP.
La BAP, voilà.
La BAP, c'est mieux, je trouve.
Moi, je dois avouer que j'ai pas trop suivi parce que... Bref. Mais il y a quand même deux petites informations que j'ai notées qui m'ont fait... Bon, je dirais pas marrer, mais qui m'ont fait sourire, quoi. Ça a été déjà la réaction de Sylvia Pinel après le premier tour, donc présidente du Parti radical de gauche, donc qui a tout de suite appelé à voter Valls. Et moi, je me suis dit, mais à quel titre elle fait ça ? Enfin, elle représente quoi ? Parce que je rappelle son score, 2,02% au premier tour, c'est-à-dire 33 000 voix. Je rappelle que...
Il n'y a pas de petit profit. Hein.
Le nombre d'inscrits sur les listes électorales en France est de 45 millions. Donc voilà, une petite personne qui récolte 33 000 voix se donne les gants d'appeler à voter en son nom, mais qui reste dans son placard, quoi. Et dans le même temps, l'inénarrable François Drugy, vous savez, dit le strapontin, donc président du Parti écologiste, donc lui, c'est un peu la même chose. Il a fait un petit peu mieux quand même, hein. Il a quand même fait, lui, 63 500 voix.
Ah, c'est le double.
Ah, c'est quand même pas mal. Il n'est pas content, il ne veut plus parler, il ne veut plus causer. Lui, par contre, n'appelle pas à voter pour qui que ce soit, donc il faut lui reconnaître ça.
Il a juste dit qu'il ne voterait pas pour un mot.
Voilà. Mais bon, il n'a pas appelé en son nom à voter pour qui que ce soit. Moi, la seule chose qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que dès les résultats du premier tour, il a demandé des explications sur les chiffres. Voilà. Alors je me dis, enfin, ils se prennent pour qui, ces gens-là?
Moi, je pense que les Russes sont intervenus dans la primaire du Parti Socialiste.
Ah bah...
C'est parce que vu les problèmes de décompte qu'ils ont eus, je pense qu'il y a notre ami Poutine doit être derrière.
Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais là, c'est une belle perche, puisqu'il y a eu un édito dans le monde diplomatique, justement, sur la question de Poutine. Vous savez qui est toujours présenté comme le grand méchant loup, etc. etc., etc. Donc, c'est Serge Halimi qui a écrit cet édito. Et donc, c'était par rapport, bien évidemment, aux soupçons qui ont pesé sur Trump. Avec ses éventuelles relations avec le Kremlin, le fait que son secrétaire d'État, donc le milliardaire, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais c'est le président d'ExxonMobil, donc fait du business avec la Russie. Donc c'est vrai que dans la presse...
C'est pas Prurit ? C'est pas lui ?
Peut-être.
Non, j'appelle Prurit ? Non.
Ouais, donc peut-être une chose comme ça, oui. Donc c'est vrai qu'il y a eu une focalisation des médias occidentaux, et notamment américains, bien sûr, qui sont totalement obsédés par le fait que Trump serait peut-être la marionnette du Kremlin. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans son édito, Serge Halimi rappelle qu'à chaque élection, ou presque, en Occident, l'élection est appréciée au prisme de la Russie. Donc c'est Trump aux États-Unis, ça a été Corbyn au Royaume-Uni, où on l'a un petit peu soupçonné de ne pas être très clair à ce niveau-là. Et puis en France, c'est aussi bien Mélenchon, Fillon que Le Pen, qu'on ne les accuse pas, mais bon, on s'interroge sur d'éventuelles relations qu'ils pourraient avoir. Alors, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Serge Halimi fait un petit rappel historique tout de même, c'est que on imagine la réaction des médias et des éditocrates occidentaux si, par exemple, c'était le Kremlin qui avait reçu la livraison par Google de milliards de données privées collectées. Je rappelle que c'est la NSA, c'est pas le Kremlin. Qu'auraient dit les éditocrates et ceux qui savent si c'était le Kremlin qui avait écouté le téléphone de Merkel, par exemple. Donc voilà. Et puis un petit rappel historique que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'au printemps 96, donc un président,
il y a 20 ans, donc.
Voilà, donc un président russe malade, alcoolique, corrompu.
Boris Yeltsin.
Voilà. Donc n'a survécu à une impopularité abyssale que grâce au soutien politique, financier des capitales occidentales. Et donc ce chouchou des démocrates, que ce soit de Washington, de Berlin, de Paris, a fini par abandonner le pouvoir le 31 décembre 1999 et il l'a transmis à son fidèle Premier ministre qui était Poutine. Voilà. Donc je pense que c'est assez bien des fois de remettre en perspective certaines choses.
Alors le secrétaire d'État, ancien patron d'Exxon Mobil, c'est Rex Tillerson.
Purite, c'est lequel alors ?
C'est l'environnement.
L'environnement, d'accord, oui, c'est ça. Ça me grattait quelque part, hein, c'est ça.
Alors, je ne voudrais pas rebondir tout de suite, mais j'en ai une petite.
Oui, je veux peut-être juste rebondir sur notre ami Trump.
Ben voilà.
Voilà. Puisque tu évoquais cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, Donald Trump, j'ai envie de l'appeler DT Polio maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. DT, Donald Trump, Polio, je crois. Des fois, je délire tout seul devant mon ordinateur. Donc, DT Polio, DT Coke, comme vous voulez, il a signé le lundi 22 janvier un décret donc, qui interdit le financement par de l'argent fédéral d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Alors, ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que
Il y a d'ailleurs une manifestation qui est prévue aux États-Unis, des pro-life.
Et, tout à fait.
Ils ont déjà annoncé les chiffres avant que la manifestation ait lieu. En disant que c'est sûrement un succès.
Il y a, ce qui est assez amusant, c'est que c'est marrant comme Donald, moi ça me fait penser à Donald Duck. Il y avait Ronald Reagan, hein, c'est le clown de chez McDo. C'est marrant, voilà. C'est des clowns de ce côté-là.
Il y a l'oncle Sam et maintenant c'est l'oncle Donald.
Ouais. Donc cette mesure, elle avait été prise donc, sous la présidence de Ronald Reagan, qui a été annulée par Bill Clinton, qui a été remise par un grand visionnaire qui était Bush, et qui a été réannulée par Obama. Donc c'est marrant de voir un peu le...
Marrant, je ne sais pas si c'est le mot.
Oui, enfin marrant, j'ai dit que je le mettais entre guillemets. Et le nouveau président s'est par ailleurs engagé à nommer un juge farouchement opposé à l'avortement à la Cour suprême, instaurant un nouveau rapport de force qui pourrait à terme déboucher sur l'annulation de ce qu'on appelle le Direct Global Gag, cherchez où est le gag, hein, qui est donc justement la loi sur l'avortement, qui a été votée en 1973 aux États-Unis. Donc je pense que...
Non mais c'est vrai que là...
On va devoir se bouger un petit peu et tout le monde...
Non, en ce moment, c'est vrai que ça dégaine vite. Hein. Je veux dire,
oui, il a le stylo facile, c'est vrai.
La signature de décret en rafale.
Mmh, voilà.
On revient en rafale.
On va faire une première pause musicale avant de revenir avec quelques éclaboussures.
Ce texte commencera par une petite mise en garde aux donneurs de leçons, aux attitudes snobinardes. Ceux qui pensent que mon combat est dépassé, illégitime, abusif ou infondé. Ceux qui me taxeront de misérabilis parano. Ceux qui ne comprennent ni ma musique, ni mes mots. Sachez que je n'excuse ni votre ignorance, ni l'histoire colonialiste de notre douce France. Mon daron m'a dit, si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents. Pas facile à comprendre pour un môme de 6 ans d'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages. Parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon, garder ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages. Dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage évaporés. Les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe ? c'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé, de me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations. Là où on entasse les arabes et les noirs comme de sales vulgaires souris de laboratoire. Au royaume de la manipulation et du silence, ça te parle de mixité, de mélange, d'échange et de différence, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience, alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense, et qu'elle est belle. Elle est belle, la France.
Elle est belle la France, avec son cortège d'indécence. Ces criminels de la petite enfance qui siègent dans les hautes instances. Ces ministres en vacances quand suffoque la vieille France. Papy ne fait plus de la résistance, il meurt de chaleur en silence. Dans la plus grande indifférence, celle de ses enfants, celle de son voisin d'en face. Elle regarde ses familles africaines entassées dans des cages à poules. Ça prend le feu mais c'est pas grave, c'est que des noirs, ça roule. Tout le monde s'en fout comme de l'an 40, comme du scandale du sang contaminé ou celui de l'amiante. Eh, c'est clochard qui refroidissent en hiver. Seul au passage, respect à l'abbé Pierre qui essaie de sauver les meubles. Entre nous, elle a pas fait long feu, la France en bas. Je crois qu'on peut même dire qu'elle a mangé sévère. Aux pauvres, on ne tolère pas le moindre écart. Tolérance zéro pour les ouvriers, les chômeurs et les smicards. Ils s'en sont pris plein la gueule. En plus, faudrait qu'ils la ferment. Cette bande de fainéants qui ne savent que se plaindre et faire grève. À côté de ça, ces soi-disant serviteurs de l'État continuent à magouiller sur le dos du tiers-État. Fausse facture, emploi fictif, détournement de fonds, sans problème. Ils s'en mettent plein les fouilles, et j'en place une pour mon idole. Notre président de la République, qui depuis 10 ans pourrait être en tôle, à cohabiter avec Mohamed et Benhamer. Eh, hey, si vous ajoutez le bruit et l'odeur. Elle est belle la France, qui déploie une véritable armée pour capturer l'ennemi public José Bové. À côté de ça, ces messieurs du CSA et de l'UMP finiront par s'en sortir blanchis et innocentés. Pas comme ce jardinier arabe répondant au nom singulier d'Omar Radad, analphabète, pauvre musulman, pas de chance. Eh ouais, monsieur Ladad, elle est belle la France.
Le ministère des Affaires Populaires, c'est le choix d'Émilie sur Radio Larzac. Pour poursuivre ce conflit de canards, la semaine dernière avait lieu, samedi dernier à Rodez, une manifestation contre le projet de méga-transfo à Saint-Victor-et-Millevieux, également pour contre les projets éoliens, industriels éoliens qui voient le jour un petit peu partout dans la région. Et Gilles, tu souhaitais revenir sur cette manifestation, sur ce qui s'est passé autour de cette manifestation.
Voilà. Personnellement, je n'y étais pas. Mais j'ai suivi ça de loin, quoi. J'ai eu comme beaucoup des comptes rendus. Mais ce qui m'a surtout, ce qui me fait surtout réagir, ça a été la publication d'un communiqué par le syndicat Unité Police CGPFO.
CGP ou SGP ?
SGP, pardon. SGPFO. Cela étant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sécurité générale des...
Il y a FO dedans, en tous les cas.
Il y a FO. Gardez vos forces, les ouvriers. Donc un communiqué qui déplore, je cite, « un déferlement de violence caractérisée à l'encontre des effectifs de police à Rodez ». En effet, il y a eu 3 blessés parmi les policiers. Il y en a un qui serait tombé par terre. Et les 2 autres ont été blessés par des jets de feuilles. Alors, on m'avait donné l'information qu'il avait été précisé, je pense dans le procès verbal, qu'il avait été précisé des feuilles d'origine végétale.
Pas des feuilles de papier, donc.
Voilà.
Encore que les feuilles de papier peuvent être d'origine végétale.
Voilà, général, donc ça, j'ai pas retrouvé, mais bon, voilà, j'ai vu ce communiqué. On est vraiment dans le summum du ridicule, et je me demande si celui qui a écrit ça se rend compte.
Le jet de feuilles, c'est vraiment les termes employés par le syndicat général de la police force ouvrière, ou ça vient d'ailleurs en fait.
Ah non. C'est dans le communiqué, officiel. Voilà. Et d'ailleurs, un manifestant a été arrêté après la manifestation, alors qu'il rentrait chez lui. Et donc voilà, c'était le dangereux lanceur de feuilles, apparemment. Donc il a quand même subi une garde à vue de près de 24 heures. Alors voilà, enfin bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et enfin, on aurait tendance à faire marrer. Mais je crois que c'est quand même assez inquiétant qu'un syndicat de police puisse se croire autorisé de sortir une énormité pareille, quoi. Ce qui donne une petite idée un petit peu du pouvoir dont ils se sentent investis.
Je n'y étais pas, mais apparemment, oui, d'après les échos que j'ai eus, apparemment, ils se sont autogazés aussi.
Ah oui, tout à
Donc
fait.
Donc peut-être que parmi les trois blessés, il y en a deux qui ont été gazés par leurs copains.
Mais apparemment, il y en a un qui n'était pas bien du tout.
Ouais. Voilà. Bon, après, on peut discuter le geste. Hein. Voilà, feuille ou pas feuille.
Oui. Enfin bon, je ne pense vraiment pas que les organisateurs...
Pour jeter une feuille, il faut être vachement balèze quand même.
Bah oui, mais bon, tu sais, il peut y avoir des...
Moi, je voyais sur Internet justement une expérience qui a été faite récemment sur... Ils ont mis une enceinte sous vide pour revoir le fameux théorème de Galilée, comme quoi une feuille tombe aussi vite qu'un boulet de canon. Donc c'est filmé, il y a l'expérience, on voit une feuille qui est attachée avec le boulet de canon, et c'est génial, parce qu'on voit effectivement que la feuille descend à la même vitesse que le boulet de canon. Peut-être que le jet de feuille a eu lieu sous atmosphère
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de boulet de canon après la feuille, avec la feuille.
Bon, voilà. Oui, mais si tu jettes dans une atmosphère vide une feuille, tu peux faire mal.
Oui, mais voilà ce que j'allais dire. Je ne pense pas qu'on puisse soupçonner les organisateurs de cette manifestation d'avoir une réputation d'être violent, quoi. Parce que si ça, c'est de la violence... Alors je sais qu'on vit encore, je le signale, hein, sous état d'urgence. C'est vrai. Mais il ne faut pas déconner, quoi. Voilà. Enfin, bon. Là aussi, affaire à suivre, il y aura peut-être des suites judiciaires.
Surtout qu'il a été arrêté, comme tu dis, donc il y aura un jugement.
Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait.
On pourra peut-être aller jeter des feuilles.
Oui,
de PQ, ce serait bien. Ou... Atmosphère vide. Ouais. Alors, c'est peut-être le vide qui attire le vide, hein, je ne sais pas.
Il y a peut-être un défaut de portance.
Ouais, peut-être que dans les cerveaux de ces policiers, bon. Il y avait un certain vide qui régnait, voilà. Je ne sais pas.
Ouais, à suivre, donc, concernant ce futur procès.
On parle de Penelope Gett quand même, parce qu'on va plus avoir de temps là, pour parler. Alors je sais, est-ce que c'est la peine de préciser la teneur de la Penelope Gett? Je pense que tout le monde en a entendu parler. Penelope Fillon, épouse de notre peut-être futur président. Donc elle pousse pas la chansonnette, non, elle fait dans le sérieux. Elle a été pendant 8 ans députée du...
Pas députée, non.
Conseillère... Assistante parlementaire, merci, du député François Fillon.
Donc son mari,
tout à fait. Bien, tu suis.
Ce qui n'est pas illégal. Hein.
Ce qui n'est pas du tout illégal.
Et je n'ai rien dit.
Et après, donc, quand Monsieur Fillon a été appelé à des responsabilités supérieures, elle a continué avec son suppléant qui c'était Marc Joulot. Et dans ces 8 années qu'elle a exercé ce travail, elle a touché la modique somme de 500 000 euros brut. Faut pas déconner quand même, hein, brut.
Et ce qui fait quand même 62 500 par an.
Oui,
c'était et 5200 par mois en moyenne.
Voilà, ça a été rapporté, j'ai lu l'article mais j'ai pas retenu le chiffre, rapporté au salaire d'un chercheur du CNRS, c'est assez marrant. Une collaboratrice de François Fillon qui elle a vraiment travaillé, interrogée par le Canard Enchaîné, l'avoir jamais croisée. Et alors en parallèle de ça, en 2013, je rappelle, hein, Penelope Fillon, elle se présente comme la femme au foyer, qui a donc toujours éduqué ses enfants, qui a jamais intervenu dans la vie de son mari, etc., etc., etc. Et donc, elle a collaboré à la Revue des Deux Mondes, alors qui est propriété de Marc, tenez-vous bien, Ladrette de la Charrière, hein, homme d'affaires
qui est une revue très prestigieuse, qui existe depuis très très longtemps. Hein.
Qui est la Revue des Deux Mondes, oui. Et qui a un groupe, d'ailleurs j'ai oublié le nom. Et qui est un pote aussi à François Fillon, qui de temps en temps lui prête son voyage avec lui en jet. Bon, on a les copains qu'on mérite. Hein. Et donc interrogé par l'hebdomadaire, le directeur de la revue qui était Michel Crépu à l'époque, se dit sidéré, ouvrez les guillemets, « Je n'ai jamais rencontré Penelope Fillon et je ne l'ai jamais vue dans les bureaux de la revue. Il précise toutefois que Penelope Fillon a signé 2 ou 3 peut-être notes de lecture. » J'avais vu, ça faisait 2 feuillets, enfin bon, bref, 2 pages, quoi. Elle avait touché la modique somme de je ne sais plus combien, 1 000 euros, c'est ça?
100 000 euros. Et moi, à ce tarif-là, je pose ma candidature. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une enquête d'une journaliste de Mediapart. Et il s'avère que 20% des députés de l'hémicycle, en 2014, ont embauché à un moment de l'année leur épouse, leur cousin, leur cousine, leur grand-père, voilà. Donc elle a dénombré exactement le nombre de personnes. Il y a 52 épouses, 28 fils et 32 filles de députés qui ont travaillé à l'Assemblée nationale ou en circonscription. Alors, ce qui est aussi intéressant, ce qu'elle souligne, c'est est-ce qu'il y a un niveau de diplôme ? Bon, à la limite, on pourrait se dire, pourquoi pas ? Je veux dire... Mais est-ce qu'il y a un niveau de diplôme qui est exigé pour faire ça ? Ben non, pas du tout. Et elle cite l'exemple de Nadia Copé. Nadia Copé, vous la connaissez ? Bon, la femme de Copé, bien sûr. Oui. Et vous savez quel est son boulot ? Enfin, son diplôme ? Mmh. Elle est psychologue pour enfants. Alors que, finalement, c'est peut-être pas si mal pour l'Assemblée nationale. Enfin bon, j'y avais pas pensé. Et il y a aussi l'épouse de Bruno Le Maire, hein, qui lui aussi, c'est le lapin. Il a je sais pas combien d'enfants, donc elle a élevé toute la famille. Elle se présente comme mère de famille, etc. Elle est artiste peintre. Voilà, donc c'était deux exemples que mettait en évidence cette journaliste. Et elle soulignait aussi, pourquoi pas ne pas faire comme pour le Parlement européen, où il y a interdiction totale des emplois familiaux depuis 2009. Donc c'est un bel exemple. Et ce que je trouve assez, je ne sais pas si le terme désopinant s'emploie, c'est que tous les gens qui ont été pris en quelque sorte la main dans le sac avec une fille, une fils, une épouse, eh ben, ils revendiquent le fait c'est malheureux, ils n'ont pas le temps d'être en famille. Donc ça leur permet de maintenir un lien social. Voilà.
Un lien familial.
Un lien familial, oui. Moi, ça me fait toujours penser quand je suis des fois en reportage sur les chantiers, je vois les pauvres mecs à 7h du matin qui arrivent, qui se sont tapés 2 heures de transport en commun, qui repartent le soir. Peut-être qu'eux aussi, ils auraient besoin de maintenir un certain lien familial.
Oui, mais là, il faut prendre aussi en considération le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, alors je sais pas si ça a un rapport, mais pourquoi pas. Il y a un chiffre qui est tombé concernant le dividende distribué en 2016 par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires. Donc c'est la modique somme de 56 milliards d'euros.
On se rend même plus compte de ce que ça fait.
Non, mais ce qui peut donner une petite idée, c'est un montant équivalent à avant la fameuse crise des subprimes en 2007. Donc voilà, la crise sert à quelque chose, et puis on peut appuyer encore un petit peu plus. On n'en parle très rarement dans les médias, mais vous savez, ce fameux forum économique mondial qui se déroule tous les ans à Davos.
Si on en parle quand même. Enfin,
ouais. Bon, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'ONG Oxfam a publié un rapport juste la veille de l'ouverture. Et d'après les chiffres, alors ce sont des chiffres qui étonnent même plus, parce que c'est pas une nouveauté. Voilà ce que je suis en train de dire, c'est pas un scoop. Mais 8 milliardaires détiennent aujourd'hui dans le monde autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, c'est-à-dire 8 personnes face à 3 milliards 600 millions de personnes. Un chiffre qui bouge pas vraiment, hein, parce qu'on l'entend assez souvent dans certaines manifestations, les 1% les plus riches possèdent autant de richesses que les 99% restants. Et en France, entre 1988 et 2011, les revenus des 10% des Français les plus riches ont augmenté de 30%. Voilà. Et on continue de parler de crise. Tout dépend pour qui. Et tout dépend de ce qu'on appelle crise, et on se rend compte que finalement ça sert pas mal. Alors voilà, quand on est dans ce contexte général, je comprends que quelqu'un comme Fillon puisse tomber des cieux quand on lui fait ce genre de reproche, parce que voilà, pour ces gens-là, c'est un petit peu la normale. Apparemment la normalité.
Il a des faux frais, ce garçon. Hein.
Oui, enfin bon. C'est vrai que la ligne de défense est un petit peu surprenante, à part les éléments de langage qui ont été donnés. On remarque qu'il n'y a pas quand même de grands ténors qui se sont précipités pour défendre François Fillon. On remarque également que le FN ne s'est pas précipité pour lui enfoncer la tête sous l'eau, alors que c'est les adversaires déclarés. Hein,
je crois que Marine avait un pièce sur le cul avec...
Des problèmes d'emploi fictif.
Voilà, d'emploi fictif avec son mari, je crois, qu'elle le rémunérait. Donc je pense que de ce côté-là, ils doivent être assez discrets, je pense.
Un petit peu, pour le moment. Voilà, on... Tu citais des chiffres, Gilles. On peut aussi parler d'évasion fiscale. Tu n'en as pas parlé dans les chiffres que tu citais.
Ah oui, mais bah oui.
Non, c'est juste pour en venir au procès des faucheurs de chaises dont tu voulais nous parler.
Oui.
Encore eux.
Bah oui, bah une bonne nouvelle, parce que quand même le rendu du procès est tombé. Le procès de Dax. Donc où alors excusez-moi, mais le basque, j'ai séché les cours, Ron Palais, il s'appelle, donc qui était inculpé pour avoir été un des organisateurs des fameux fauchages de chaises. Je vous rappelle, ça consistait à aller dans ça consistait à aller dans les agences bancaires, notamment de la BNP Paribas, qui était particulièrement visée, pour prendre en otage, là c'est le vrai sens du terme, des chaises pour dénoncer justement l'évasion fiscale. Ce qui est intéressant, c'est que pendant le procès, le procureur de la République, donc qui normalement est censé attaquer, avait lui-même dénoncé l'évasion fiscale pendant l'audience. Il avait préféré qualifier les réquisitions de chaises d'emport. C'est beau, non ? Emport, plutôt que de vol. Voilà. Et donc le tribunal l'a suivi, puisque John Palais a été relaxé de tous les chefs d'accusation. Alors cela étant, c'est pas terminé, puisque la banque BNP Paribas s'est retournée aussi contre le président des Amis de la Terre. Donc sur le même sujet, en sachant que là le procès aura lieu à Bar-le-Duc au mois d'avril. Voilà. Mais bon, c'est quand même déjà une avancée. Et c'est vrai qu'on n'a pas très souvent, donc c'est toujours intéressant de le signaler.
J'ai une petite brève sur mon parler de Marine.
Oui.
Oui, je ne sais pas si elle s'est pris une casquette. Je sais pas
une
si
casquette.
Une veste, on peut dire aussi.
D'accord.
Parce qu'elle s'est rendue aux États-Unis. Elle espérait être la première femme.
Elle était allée boire un café à la Trump Tower.
Voilà, elle est allée à la Trump Tower boire un café. Ça fait cher le café. Hein. Alors, son directeur de campagne, David Reichlein, a dit déplacement privé. Hein. Donc, elle a débarqué le 12 janvier à la Trump Tower. Alors, elle a été identifiée dans le café avec deux hommes. Les deux hommes en question sont René Sénac, qui est ancien député frontiste et apôtre à l'époque de la secte Moon, et Guido Lombardi, locataire de la tour et ancien représentant de la Ligue du Nord. Donc, après avoir copieusement léché la politique de M. Trump, hein, pour ne pas dire plus, Marine espérait pouvoir lui serrer la main, parce que papa, il avait serré la main du clown Ronald à l'époque. Et donc, elle espérait renouveler l'exploit, et malheureusement, donc elle s'est pris une veste. Voilà.
Ça fait cher la veste, hein ?
Ça fait cher la veste et le café, surtout.
Moi, j'aimerais bien donner quelques bonnes nouvelles.
Allez. Alors.
Mais
c'était une bonne nouvelle, ça, je trouve, moi.
Oui. Une rafale, hein, ça va pas être long. Par exemple.
Alors, ne parle pas de rafale, s'il te plaît. Tu vas nous.
une augmentation du nombre de personnes qui ont obtenu un titre de séjour en France en 2016 pour des raisons humanitaires. Plus 41% en un an.
Étonnant. Enfin, pourcentage. Il faut le ramener aux vrais chiffres, peut-être.
Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, cela étant à mettre effectivement en regard des 5000 noyés en Méditerranée durant la même année. Voilà. Ensuite, à mon sens, une bonne nouvelle, parce que c'est rare quand ça marche dans ce sens-là. Les députés ont adopté l'amendement autorisant la vidéosurveillance dans les abattoirs à partir du 1er juillet 2018. Afin d'éviter les actes de cruauté envers les animaux. Et ça, c'est une surprise, parce que la commission des affaires économiques avait retoqué cette proposition. Donc là, les députés ont dit non, mais nous, on fait ce qu'on veut. Pour une fois, c'est quand même pas mal. Ce serait bien qu'ils appliquent aussi ce mode d'action pour d'autres sujets. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise, mais le parquet de Paris a ouvert le 12 janvier une information judiciaire pour tromperie sur les émissions polluantes des moteurs diesel de Renault, qui rejoint donc Volkswagen sur le banc des accusés. Alors je vous rappelle le battage médiatique qu'il y avait eu quand c'était Volkswagen.
Enfin, justement, les autres constructeurs ne l'avaient pas trop ramené à l'époque.
Voilà.
On imagine pourquoi.
Voilà, donc là, bah, c'est Renault qui se fait allumer. Alors j'ai pas entendu d'écho retentissant dans les médias, mais voilà, Renault, c'est franco, donc on met la pédale douce. Il faut quand même savoir que l'escroquerie pourrait coûter à peu près 4 milliards d'euros au groupe. Hein, ce fameux groupe dirigé par Carlos Ghosn, hein,
Cost Killer.
L'homme aux 16 millions d'euros par an, quoi.
J'ai une bonne nouvelle aussi, parce qu'on parlait de Guéant, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Hein. Vous avez lu...
Bah, apprécié selon les...
Oui, apprécié, enfin bon. Une bonne nouvelle, je modère. Hein. Il s'est pris 2 ans d'emprisonnement dans la tronche, dont un ferme. 75 000 euros et l'interdiction d'exercer toute fonction politique pendant 5 ans. Donc je rappelle, c'est pour l'affaire des primes en liquide qu'il touchait à l'époque où il était au ministère de l'Intérieur. Alors, par contre, moi ce que je trouve, quand je dis que je tempère la bonne nouvelle, c'est que d'après ce que j'ai lu, il aurait escroqué au total, enfin, il aurait au total touché 210 000 euros qui auraient été divisés avec ses 3 collaborateurs.
Tant pas.
Voilà, et donc il a été condamné à 75 000 euros. Donc, moralité, il est condamné à rembourser ce qu'il a piqué, grosso modo. Donc, voilà, amusez-vous à faire la même chose et je pense pas qu'on vous condamne de ce que vous avez arnaqué. Bon, il s'est pris 1 an dans la tronche, mais combien il va faire ? À suivre. Hein. À mon avis, il va
évidemment
pas aller bien.
À suivre. Gilles.
Trampoline, sur une autre bonne nouvelle, 5 banquiers espagnols qui, eux, ont été condamnés à la prison ferme. Donc, c'était les ex-dirigeants de l'ancienne caisse d'épargne de Galice. Donc au moment où il y a eu le crash boursier, bancaire, etc., donc en 2012, donc cette banque était en faillite, donc elle a été renflouée par l'État espagnol. Alors dans le contexte économique très particulier de l'Espagne, explosion du chômage, etc., etc. Donc il se trouve que ces 5 dirigeants devaient rendre les 11 millions d'euros qu'ils avaient touchés du fonds de restructuration bancaire de la part du gouvernement. Parce qu'en fait, les enquêteurs de la brigade financière espagnole avaient défini que ces 5 personnages, juste avant que leur banque soit nationalisée, s'étaient accordés des parachutes dorés, des pré-retraites monstrueuses, etc., etc. Voilà. Donc c'est une affaire qui remonte à 2010. Et,
combien ils ont pris ?
Ils ont été incarcérés 3 ans, ferme. Voilà. Alors, en sachant que cette banque avait été nationalisée, ça avait coûté 9 milliards d'euros d'aide publique et elle a été revendue 2 ans plus tard pour 1 milliard d'euros.
Jolie perte.
Voilà. Donc des banquiers derrière les barreaux, mais voilà, c'est pareil. Seront-ils derrière vraiment
des
barreaux ?
Seront-ils derrière les barreaux ? Ce sera des barreaux dorés.
Allez, après cette rafale de bonnes nouvelles, on va faire une nouvelle pause musicale et puis on revient avec la suite, c'est-à-dire peut-être encore un qui a dit, la nécro, de la techno, de la science-fiction, etc., etc.
Fille comme fille. tranquille, un gabien qui file, je suis free comme fille. Ici sous la couette, une bête à deux têtes, c'est le paradis.
Ne me dis pas non, le Massilia Sound System sur Radio Larzac.
Je te dis pas non.
Je vous en prie. Donc, on continue ce conflit de canards. Qu'est-ce qui nous reste dans nos besaces, dans nos musettes
plein de choses.
Et nos paniers?
Tu parlais techno, juste je trampoline rapidement. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, j'avais parlé de la brosse à cheveux connectée.
Oui,
ouais,
il y a 15 jours, oui.
Il y a 15 jours, oui, le temps passe vite, eh bien, Guillaume Poupard, qui est le patron de la cybersécurité française, qui est le chef de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, estime que les attaques en milieu industriel, via les objets connectés, pourraient avoir des effets dramatiques, y compris sur les vies humaines. Voilà, donc j'imagine très bien la brosse à dents connectée qui va faire un attentat dans le futur. J'en frémis, il y a de quoi écrire un livre là.
Va savoir.
Le futur, parlons-en justement.
Ah,
Philippe.
Quel talent. Alors le futur, oui. Alors moi, je suis un fan de Xavier Delaporte. Je ne sais pas si vous l'écoutez
oui,
de temps en temps sur France Culture. Voilà, je le trouve brillant. Et il a fait une chronique il y a quelques jours qui m'a interpellé. La question, c'est pourquoi les gens du futur n'ont-ils jamais remonté le temps jusqu'à nous? Voilà. Bah, l'idée, c'est donc dans le futur. Évidemment, ils vont inventer la machine à remonter le temps. Et pourquoi il n'y a jamais un mec qui s'est pointé du futur pour nous dire « Tiens, ça arrive, je viens du futur ».
Je vois que Marty McFly est dubitatif.
Alors, il y a pas mal de réponses qu'il a apportées. Alors, une qui est intéressante, c'est que donc, ça émane d'un Ishan Wang. Alors, apparemment, c'est quelqu'un qui a bossé sur Facebook, qui est une grosse tête, qui explique que la présence des hommes représente 0,08% du temps écoulé sur la Terre. Et que si on ramène la période intéressante, c'est pas mon avis, mais où l'homo sapiens, enfin, depuis qu'on fait des choses, quoi, c'est-à-dire les Égyptiens, bon, ça, grosso merdo, ça fait 5000 ans, donc ça ferait 2% des 0,08%. Donc il appelle ça un clin d'œil dans l'histoire, effectivement, et donc il dit que quand l'homme du futur voudrait voyager dans le temps, il ne pourrait pas régler son bouton.
Ah, tu sais qu'il ne saurait pas où il arrive, en fait, c'est ça?
Si, non, mais il n'aurait pas la précision pour régler sur la microseconde qu'on représente dans le futur. Bon, c'est une explication pour laquelle je suis assez sceptique, puisque, bon, on peut régler les choses très précisément. Et apparemment, Ishan Wong aussi, il est sceptique. Et il dit, l'autre explication qu'il avance, il dit, ben non, c'est parce que finalement, ils s'en foutent de nos technos pourraves. Parce qu'on est là à se faire mousser avec nos centrales nucléaires et tout ça, et pour eux, c'est peanuts. Et l'exemple qu'il donne, l'analogie que je trouve assez marrante, c'est qu'il dit, imaginez que la DSL arrive dans une ville de campagne et que vous y courez pour brancher votre ordi. Ben non, parce qu'on a la fibre optique depuis longtemps. Donc c'est un peu la même chose. Alors voilà, donc, puis l'autre argument, c'est, s'il remonte le temps, à la limite, c'est pour se prendre des vacances, trouver une plage de rêve. Qu'est-ce qu'il va venir foutre dans notre monde pourri où tout est pollué, donc autant remonter 10 000 ans plus tôt où il y a des plages de rêve, etc.
Ouais, avec, pour se faire mordre le cul par les dinosaures, peut-être pas.
Ouais, peut-être pas 10 000 ans, enfin bref.
Non, 10 000 ans, non.
Alors moi j'ai d'autres.
Il y a peut-être la glaciation.
Moi ça m'a interpellé parce que j'ai quand même d'autres explications. Parce que je me suis dit pourquoi ils sont peut-être déjà venus ces extraterrestres. Enfin ces extraterrestres, non, ces hommes du futur. Moi je sais pas, peut-être que Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha, c'était des mecs qui voyageaient dans l'espace.
Ah ouais.
Et puis ils ont.
De Vinci, Bach.
Ouais, Jésus il a un peu regretté le fait d'être venu, quoi. Et puis l'autre explication que j'ai, c'est que s'ils viennent, s'ils voudraient modifier la merde un peu actuelle dans laquelle on est, ils n'auraient peut-être pas intérêt à le faire. Parce
mais
que
non.
Peut-être que ça remettrait en question
mais oui.
leur propre existence dans le futur.
Absolument.
Donc ils viennent, ils regardent, puis peut-être que parmi nous, il y en a peut-être qui viennent du futur, là, je sais pas. Bizarrement,
Émilie me regarde d'un air bizarre. Là. Voilà, donc je trouve cette chronique assez délirante, moi.
Mais c'est vrai que moi, j'avais, dans ma petite réflexion personnelle, je m'étais aussi posé la question sur l'éventualité de la vie extraterrestre. Et pour moi, la conclusion est évidente.
Ah bon ?
Non, est évidente. C'est-à-dire que pourquoi la question qu'on se pose, si des extraterrestres existent, pourquoi on les a jamais rencontrés ? Ce serait une preuve irréfutable. Ben, je pense que justement, la preuve qu'ils existent, c'est qu'ils ne sont jamais venus nous rencontrer. Parce qu'ils doivent se dire, mais ces arriérés-là...
Oui, on peut retourner la chose.
Absolument, absolument.
Philippe, tu parlais
de... Mais là, on est parti dans des trucs, là.
Oui, mais moi, ça m'intéresse.
Tu parlais de plages polluées, et donc de la préférence des hommes du futur pour les plages antérieures, ouais, on va dire. Est-ce que vous avez vu ce qui est paru dans la revue Que Choisir à propos de l'état de l'eau potable dans notre beau pays ?
J'ai vu passer un truc, mais je...
Voilà. Donc, en fait, la revue conclut qu'il y a à peu près 3 millions de nos concitoyens qui consomment de l'eau du robinet polluée, en fait. Alors, ils ont fait une carte interactive qui est visible sur le site de la revue. Je suis allé jeter un œil, évidemment. Bon, évidemment, j'ai tapé le code postal 12100 pour voir comment c'était sur Millau. Et en fait... ça dépend, alors il y a plusieurs, il y a bon, moyen, mauvais, très mauvais, etc. Et en fait sur Millau, je suis tombé sur enfin, il n'y a pas de réponse en réalité, puisque ça dépend de l'état du réseau. Donc on a un réseau qui est vraisemblablement pas partout le même, et que donc en fonction des emplacements, évidemment l'eau n'a pas la même qualité partout sur la commune.
D'une rue à l'autre.
Dans les prochaines années, je pense qu'avec avec tout ce que nous balancent nos amis légionnaires sur le plateau, là, on risque d'avoir des surprises quand on va boire un petit coup.
Mais oui, le Larzac étant le château.
Alors il y a ça, il y a évidemment les zones où il y a de la viticulture, de l'arboriculture, etc., qui sont grandes consommatrices de pesticides et autres polluants.
Tiens, tu me fais penser, j'ai une petite brève là. Je trampoline.
Allez-y.
On s'en doutait un petit peu, il y a un article dans Reporter qui précise que des chercheurs ont étudié les effets d'une exposition orale donc au dioxyde de titane. Alors je rappelle, le dioxyde de titane, c'est le E171, quand vous voyez ça sur les bouteilles.
C'est un agent blanchiment, en fait.
C'est un additif alimentaire qui est très utilisé dans la confiserie. Et c'est une nanoparticule.
Qui ne sert à rien, hein, si ce n'est à blanchir les...
Ça ne sert absolument que dalle, mais ça fait beau. Puis ça fait surtout écouler de l'oxyde de titane, du dioxyde de titane. Et ces chercheurs ont fait des études, et il est démontré donc que les nanoparticules traversent l'intestin, et surtout dans l'organisme, avec des troubles du système immunitaire à la clé et des effets cancérogènes.
Ah, mais arrêtez, on va tous mourir.
Donc c'était juste pour trampoliner sur ce que tu disais. Je peux continuer avec ma techno, là ?
Ah, oui, bonne
rapidement,
idée.
Rapidement, parce que j'avais toujours pareil, c'est une mine, Xavier de la Porte. Est-ce que vous connaissez Libratus ? Non, Libratus, c'est le petit frère de Claudico. Vous connaissez pas non plus Claudico ? Non. Alors Claudico, c'est un ordinateur qui avait perdu il y a quelques années, il y a 2 ans, au poker, contre des champions de la spécialité, des champions humains de la spécialité. Alors, on sait depuis quelques années, enfin depuis très longtemps, que les ordinateurs sont plus balèzes que nous aux échecs, puisque ça remonte à quelques décennies déjà, et plus récemment au Go.
Deep Blue.
Puisqu'au Go, ils ont battu le champion de la spécialité il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Donc c'est très récent. Donc le Go, c'était apparemment beaucoup plus complexe pour mettre un programme. Mais bon, ça y est, c'est fini. Et bien, depuis quelques temps, l'ordinateur va battre les hommes. Actuellement, il se joue à Pittsburgh, une compétition qui s'appelle Brains vs AI. Ça veut dire les cerveaux contre l'intelligence artificielle. Et les champions de poker sont en train de se prendre une tôle. Alors ça pose pas mal de questions parce que, le poker, c'est beaucoup plus complexe que les échecs ou le go, car il y a d'autres décisions qu'il faut prendre en compte, des informations qui sont incomplètes, puisque, vous savez aussi bien que moi, le poker, on bluffe, il y a des stratagèmes, il y a des choses comme ça. Donc, alors, ce qui est assez marrant, c'est que Thomas Sandom, qui a conçu Libratus, explique, alors je n'ai pas fait le calcul, je voyais Gilles qui se précipitait sur la biquette, là, explique qu'il y a plus de permutations possibles...
chacun son truc, hein, je suis désolé.
Donc il explique qu'il y a plus de permutations possibles dans une main de poker que d'atomes dans l'univers. Bon, je n'ai pas fait le calcul, hein, on lui fait confiance. Alors donc, apparemment, l'algorithme fonctionnerait sur le choix de la stratégie la moins risquée. Alors pour les joueurs de poker, c'est un non-sens, c'est idiot. Mais à condition d'avoir la puissance de calcul nécessaire, apparemment ça fonctionne. Alors moi, ce qui me faisait plutôt flipper, vous vous rappelez la scène de 2001 Odyssée de l'espace?
Laquelle?
Bah, à la fin, quand l'ordinateur il...
Ah oui,
I'm sorry, Dave, I can't do that.
Donc finalement, bah, ce qui se passe actuellement, ça voudrait peut-être dire que les ordinateurs peuvent mentir.
Alors là, dis-nous, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. On va pas finir là-dessus quand même. Je me referme le mien.
Bon, tu as un qui a dit.
Oui, un petit qui a dit.
Mais on va d'abord faire la nécro de Philippe et on terminera sur le qui a dit.
J'en ai un aussi qui a dit. Alors, oui, rapide nécro. Jane Cernan, vous connaissez?
Non.
Eh bien, c'était pour répondre à ta nécro la dernière fois sur le. Comment s'appelait-il l'homme qui avait marché sur la Lune qui était mort. Comment ? J'ai oublié son nom. Enfin bref. Et lui, c'est le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Il est décédé, donc il a fait 3 missions. La deuxième en orbite autour de la Lune. Il a préparé l'arrivée de.
Armstrong, Aldrin, Collins.
Celui qu'on cherche. Ouais. Et c'est au cours de la 6e mission Apollo 17, qui était la dernière, qu'il est allé sur la Lune. Et il a battu tous les records à cette époque-là. Plus grande distance parcourue avec le rover lunaire, plus grande vitesse et plus grande collecte de matériaux. Et l'autre nécro que. Alors tu connais peut-être, Nico, Jean Caracos.
Non.
Non, alors c'était un grand producteur de musique. C'est lui notamment qui a créé en Belgique le festival en 69 de Amouguin, où il y avait Archie Shep, l'Art Ensemble de Chicago, Drum Sherry et Pink Floyd, excusez du peu, c'était un visionnaire. Et c'est lui qui a créé le label Tapioca, qui était le premier label qui a produit le premier 45 tours de téléphone, qui était Igiaphone, je crois, de mémoire. Donc ce type-là a produit plein, il a produit plein de gens, il a révélé des talents. De
son vrai nom, c'est vrai que les producteurs sont souvent des personnages un peu dans l'ombre et que, voilà, ils sont...
Apparemment, il a une vie complètement délirante, ce type. Hein. Je lisais son article dans Le Monde et il s'appelait, de son vrai nom, Jean Georgia Canacos. Alors, est-ce que c'était pour se planquer à l'époque, déjà? On s'appelait Caracos, déjà, je pense qu'il était repéré. Hein. Voilà.
Alors Gilles, un qui a dit.
Petit qui a dit, pourquoi est-ce que j'en ai pas souvent. Qui a dit, est-ce que mettre la fin au diesel n'est pas une question de bobo? C'est plutôt à chercher du côté journaleux. Non. L'éclatante Ruth Elkrief.
Je ne sais même pas qui c'est.
Sur éditorialiste sur BFM TV, etc., qui animait
les débats, oui.
Les débats de la primaire de la Triple Alliance.
Tiens, sur BFM, j'en ai, mais on n'aura pas le temps, c'est dommage.
Voilà, donc voilà, cette question, est-ce que mettre la fin au diesel n'est pas une question de bobo venant de la part de cette personne-là, c'était assez marrant. Et juste une petite devinette, qui trouve que Macron est brillant, jeune et beau?
Pas moi.
Moi non plus.
Brillant, jeune et beau.
Brillant, jeune et beau, c'est notre ami Ségolène, qui doit avoir des petits... Non, je ne vais pas insister parce que je sais que...
Ah ben j'avais des trucs sur Ségolène, mince, je n'ai pas le temps de les placer.
Il est 59.
Ouais. Alors je finis par mon qui a dit.
Voilà.
Bon, c'est un qui a dit du canard enchaîné dans la rubrique Le mur du con, franchi avec brio par le French Doctor Multicarte Bernard Kouchner, l'ancien ministre de Mitterrand et de Sarkozy, qui rallie désormais Macron. Lui aussi, peut-être sûr que c'est pas lui qui a dit qu'il les trouvait beaux et séduisants. Hein.
Non. C'est Ségolène qui doit avoir des problèmes.
Peut-être pas les mêmes adjectifs.
Qui rallie désormais Macron après avoir voté Valls, hein, bien sûr. Donc lui, je pense qu'il doit avoir les adducteurs en bouillie, force de faire le grand écart. Oui, je voyais un clin d'œil ironique là. Enfin bon, bref. Et donc, il a sorti aux Parisiens « J'ai mal à ma gauche ».
Bah tant que c'est pas la mienne, ça devrait aller.
Merci bien, merci Philippe, merci Gilles, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci Émilie pour la technique et la programmation musicale.
Avec plaisir.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conflit de canards en studio cette fois-ci, comme aujourd'hui donc.
Ben voilà, faut suivre.
Et voilà, et puis entre-temps, la semaine prochaine, ce sera évidemment l'actu sur un plateau, pas à la même heure, hein, ce sera à midi, comme d'ailleurs le conflit de canards dans 15 jours.